dialogue d'ici et d'ailleurs, Marco Poli.
Rango avait un ami, Manuel, qui s'adonnait à une distraction d'un genre spécial. Sa famille l'avait répudié et il habitait à Montparnasse. Lorsqu'il n'était pas obsédé par ses exigences érotiques, c'était un brillant causeur, un compagnon spirituel dans les cafés et un érudit aussi. Le théâtre où il s'exhibait le plus volontiers était la Bibliothèque nationale. Il aimait le calme, la tranquillité, les vénérables savants qui étudiaient, parfois une jeune étudiante occupée à des recherches. Il aimait le dédale des rayonnages des catalogues où l'on pouvait s'égarer. Il étudiait les livres jusqu'à ce qu'il aperçoive une jeune femme penchée sur un livre en train de prendre des notes. Fatigué de la pause, il lui arrivait de relever la tête. Emmanuel se tenait là, exhibant son précieux attribut qu'il tenait dans sa main. La surprise, la rougeur, la réaction l'enchantaient. C'était plus dangereux, plus exaltant que lorsqu'il s'exposait à des réceptions, car les artistes riaient de lui et la moitié du temps personne n'était impressionné. Le paradoxe était le contraste entre son visage ascétique, la maigreur de son corps d'ermite, le regard poétique et rêveur, les traits austères même, et son exhibition tellement dissonante avec tout cela. Si son public le fuyait, il n'éprouvait aucun plaisir. Si la victime restait et écarquillait les yeux, il entrait alors en extase de plaisir. Son visage reflétait la béatitude. Les femmes en général s'enfuyaient. Il devait avoir recours à la ruse. Il posait comme modèle dans des écoles d'art, mais comme il avait sa façon de réagir au regard des étudiants, il fut mis à port. Si on l'invitait à une réception, il cherchait des pièces vides, ou bien un balcon, ou une terrasse déserte où des couples venaient s'embrasser, et alors il exécutait son numéro. Ou il se tenait souvent à un coin de rue, tout nu sous son manteau, et si une femme venait à passer, il ouvrait son manteau. Il fallut des années à Manuel pour trouver une compagne assortie à son obsession. Cela se produisit alors qu'il prenait un train pour le midi de la France. Il était seul dans le compartiment et s'était déjà allongé confortablement sur une banquette lorsqu'une femme entra. Elle était fort jolie, habillée avec recherche. Elle portait une jupe droite, serrée, un corsage léger. Elle retira son chapeau, dénoua ses cheveux, enleva ses chaussures et s'étendit sur l'autre banquette. Avant de s'endormir, elle lui adressa un sourire en coin. Au début, elle était allongée, bougeant à peine avec les mouvements du train. Elle avait des cils si longs qu'il n'aurait su dire si elle était complètement endormie ou non. Il lui semblait qu'une lueur irisée passait à travers les paupières fermées. Pour le cas où elle aurait ouvert l'œil, il déboutonna son pantalon adroitement et doucement. Il n'avait rien en dessous et son membre viril apparaissait au repos rose et clair. La femme releva une jambe comme pour se reposer d'être allongée à plat. Comme sa jupe était serrée, cela donna à Manuel un aperçu de ses cuisses, pas tout à fait jusqu'où son regard aurait aimé aller. Au bout d'un moment, elle releva son autre jambe. Un frémissement parcourut le sexe de Manuel. Elle était nue. Manuel voyait le pubis, la vulve pareille à une fleur. Il ouvrit les yeux et se sourire. Il voyait la rosée nacrée du plaisir qui apparaissait sur sa peau. Ils se marièrent dans le midi. C'est à propos de ma légende que je voulais lui causer. On avait retrouvé le début sous le lit de Mireille. J'étais bien déçu de la relire. J'allais pas gagner autant, ma romance. Après des années d'oubli, c'est plus qu'une fête démodée, l'ouvrage d'imagination. Enfin, avec Gustin, j'aurais toujours une opinion libre et sincère. Gustin, que je lui ai fait, comme ça tu n'as pas toujours été aussi connard qu'aujourd'hui. Abruti par les circonstances, le métier, la soif, les soumissions les plus funestes. Peux-tu encore un petit moment te rétablir en poésie? Faire un petit bond de cœur et de bite au récit d'une épopée. Tragique, certes, mais noble, étincelante. Te crois-tu capable? Il reste là, Augustin, assoupi sur son escabeau devant les échantillons, le placard béant. Il pipait plus. Il ne voulait pas m'interrompre. Il s'agit, comme je l'ai prévenu, de Gwendor le Magnifique, prince de Christianie. Nous arrivons, il expire, au moment même où je te cause. Son sang s'échappe par 20 blessures. L'armée de Gwendor vient de subir une abominable défaite. Le roi Krogold lui-même, au cœur de la mêlée, a repéré Gwendor. Il l'a pourfendu. Il n'est pas feignant, Krogold. Il fait sa justice lui-même. Gwendor a trahi. La mort arrive sur Gwendor et va terminer son boulot. Écoute un peu. Le tumulte du combat s'affaiblit avec les dernières lueurs du jour. Au loin disparaissent les derniers gardes du roi Krogold. Dans l'ombre montent des râles de l'immense agonie d'une armée. Victorieuse et vaincue, rendent leurs âmes comme ils peuvent. Le silence étouffe tour à tour, cris et râles de plus en plus faibles, de plus en plus rares. Écrasé sous un monceau de partisans, Gwendor le Magnifique perd encore du sang. À l'aube, la mort est devant lui. As-tu compris, Gwendor? J'ai compris, ô mort. J'ai compris dès le début de cette journée. J'ai senti dans mon cœur, dans mon bras aussi, dans les yeux de mes amis, dans le pas même de mon cheval, un charme triste et lent qui tenait du sommeil. Mon étoile s'éteignait entre tes mains glacées. Tout se mit à fuir. Ô mort, grand remords, ma honte est immense. Regarde ces pauvres corps. Une éternité de silence ne peut l'adoucir. Il n'est point de douceur en ce monde, Gwendor, rien que de légende. Tous les royaumes finissent dans un rêve. Ô mort, rends-moi un peu de temps, un jour ou deux, je veux savoir qui m'a trahi. Tout trahit, Gwendor. Les passions n'appartiennent à personne, l'amour surtout. N'est que fleur de vie dans le jardin de ma jeunesse. Et la mort, tout doucement, saisit le prince. Il ne se défend plus. Son poids s'est échappé. Et puis un beau rêve reprend son âme. Le rêve qu'il faisait souvent quand il était petit, dans son berceau de fourrure, dans la chambre des héritiers, près de sa nourrice, la Morave, dans le château du roi René. Gustin, il avait les mains qui lui pendaient entre les genoux. C'est pas beau que je l'interroge? Je me fiais. Il voulait pas trop rajeunir, il se défendait. Il a voulu que je lui explique encore tout, le pourquoi et le comment. C'est pas si facile. C'est fragile comme papillon. Pour un rien, ça s'éparpille, ça vous salit. Qu'est-ce qu'on y gagne? Je n'ai pas assisté.